Cher maître, nous sommes au mois d'amour. J'ai 17 ans, l'âge des espérances et des chimères, comme on dit. Et voici que je me suis mis, enfant touché par le doigt de la muse, pardon si c'est banal, à dire mes bonnes croyances, mes espérances, mes sensations, toutes ces choses des poètes. Moi, j'appelle cela du printemps. Que si je vous envoie quelques-uns de ces vers, et cela en passant par Alphonse Lemaire, le bon éditeur, c'est que j'aime tous les poètes, tous les bons parnassiens, puisque le poète est un parnassien, épris de la beauté idéale. C'est que j'aime en vous, bien naïvement, un descendant de Ronsard, un frère de nos maîtres de 1830, un vrai romantique, un vrai poète. Voilà pourquoi, c'est bête n'est-ce pas, mais enfin. Dans 2 ans, dans 1 an peut-être, je serai à Paris. En queue aux messieurs du journal, je serai parnassien. Je ne sais ce que j'ai là, qui veut monter. Je jure, cher maître, d'adorer toujours les 2 déesses, muse et liberté. Ne faites pas trop l'amour en lisant ces vers. Vous me rendriez fou de joie et d'espérance si vous vouliez, cher maître, faire à la pièce Credo in Unam une petite place entre les parnassiens. Je viendrai à la dernière série du Parnasse. Cela ferait le credo des poètes. Ambition aux folles.
Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux, comme avec une femme.
Bonjour Pierre Brunel.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite à l'université Paris-Sorbonne. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur Rimbaud, Rimbaud ou l'éclatant désastre, disponible aux éditions Champvallon, paru plus récemment en 2004, Éclat de la violence, pour une lecture comparatiste des illuminations d'Arthur Rimbaud aux éditions Corti, et ce Sans cœur de Rimbaud, paru aux éditions Verdier en 2009. Et surtout, vous avez établi, introduit et annoté l'édition des œuvres complètes d'Arthur Rimbaud aux éditions du Livre de Poche. Je suis donc ravie de vous accueillir pour parler de Rimbaud et pour clore cette semaine sur la croyance. Rimbaud, dont je viens de lire la lettre qu'il adresse au poète du Parnasse, Théodore de Banville. C'est une lettre datée du 24 mai 1870, 2 mois après qu'il a écrit le poème « Sensation » qu'on vient juste d'entendre chanté par Félix Leclerc. Rimbaud n'a alors que 17 ans, mais il parle déjà d'un credo des poètes. Quel est alors ce credo des poètes qu'il évoque à la toute fin de sa lettre, Pierre Brunel ?
Merci beaucoup d'avoir choisi cette lettre d'abord, puisque le mot « credo » y apparaît 2 fois. C'est donc parfaitement conforme à l'objet de cette série d'émissions. Et c'est aussi conforme à ce que je serais tenté d'appeler la première langue de Rimbaud, sa première langue littéraire, en tout cas, le latin. Les premiers textes de Rimbaud publiés, et vous savez que lui-même n'a publié que 3 poèmes en français, sont les vers latins qui avaient été couronnés dans le cadre de ses études dans l'Académie de Douai et publiés dans le bulletin de l'Académie de Douai, dont d'ailleurs un poème qui illustrerait le sujet d'aujourd'hui, puisque c'est l'évocation de Jésus à Nazareth et du regard attristé, inquiet de la Vierge Marie sur l'enfant Jésus qui s'est blessé en exerçant le même métier que son père, le Joseph, le métier de charpentier. Credo des poètes, c'est un credo parnassien, le texte que vous avez lu le montre très bien.
Le terme parnassien apparaît à plusieurs reprises.
Voilà, adressé à Théodore de Banville, qui était la cheville ouvrière en quelque sorte du Parnasse. Et l'espoir de Rimbaud, c'était que les 3 poèmes qui accompagnaient cette lettre fussent publiés dans la nouvelle livraison du Parnasse contemporain. Le premier de ces textes, c'est celui que nous avons entendu chanter par Félix Leclerc.
Sensation.
Il est sans titre dans la lettre à Banville. Il aura plus tard le titre Sensation. Il y a Ophélie. Et puis le 3e, Credo in Unam. Le mot Credo reparaît
Et qui est cité dans la lettre adressée à
Credo
Théodore de
Bondy. Je crois en une seule déesse. Cette déesse, c'est Vénus. Et je dirais que c'est tout à fait conforme à la mythologie parnassienne que de célébrer la déesse antique de l'amour. C'est un long poème, d'ailleurs, où Rimbaud fait preuve d'une grande virtuosité poétique et qu'il reprendra plus tard sous le titre « Soleil et chair », en se débarrassant du latin et en se débarrassant pour le titre du moins du credo.
Alors comment doit-on entendre ce credo? Est-ce qu'on doit entendre credo in unam, je crois en la déesse Vénus, ou je crois en le credo des poètes, credo dans deux déesses, muse et liberté, tel qu'il le dit dans le poème?
Alors là, je commenterai de diverses façons, si vous voulez. D'abord, credo parnassien, il y a quelque chose qui est conforme à l'époque, à la circonstance, quelque chose qui est une habileté de la part de ce Rimbaud qui n'a même pas encore 17 ans, hein, même pas encore 16 ans quand il écrit cette lettre. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a dans ce credo quelque chose qui est réel. Et Rimbaud l'exprime au début de cette lettre à Banville, croyance dans la muse, dans la poésie, et croyance dans la liberté. Ce sont deux éléments très forts de ce que j'appellerais le premier credo rimbaldien. La liberté, c'est ce qu'il va nommer plus tard dans une lettre très importante à son professeur Georges Isambard quand il rentrera de chez lui au début du mois de novembre, fin octobre, début novembre 70, la liberté libre. Hein, non seulement il croit à la liberté, mais il croit à la liberté absolue, à la liberté libre, à la liberté pure, si l'on peut dire. Hein. Et d'autre part, il croit en la poésie. Il la désigne ici de manière un peu académique, là encore parnassienne, comme la muse. Mais je ferai observer que dans l'un des plus beaux poèmes de cette année-là, celui qui, semble-t-il, vient à la fin du recueil sans titre qu'il a laissé à Douai au poète Paul Demny, un ami de Georges Isambard. Ce poème s'intitule « Ma bohème » et nous le connaissons tous par cœur ou à peu près. « J'allais, muse, et j'étais ton féal ». Voilà. Donc, croyance en la liberté libre, croyance en la muse, parce que la muse, c'est la représentante de la liberté poétique, cette fois-ci, et de la poésie pure aussi dont il rêve. Tout cela, ce sont des éléments forts. Bien entendu, on voit très bien ce qui manque à ce credo, ce qui n'est pas exprimé en tout cas, c'est l'aspect proprement religieux, c'est l'aspect proprement attendu, c'est l'aspect qui aurait pu provenir de sa formation catholique ou du climat catholique qui était aussi celui de la plupart des Français de l'époque. Voilà. Mais il y a quelque chose de significatif dans cette absence même.
Cette croyance, ce credo des poètes, cette croyance donc en deux déesses, la muse et la liberté, se substitue-t-il à un credo catholique? Justement, vous dites qu'il n'apparaît pas.
À mon avis, oui.
Il s'y oppose.
À mon avis, assez tôt, Rimbaud s'est détaché de la religion. Je ne dirais même pas la religion de son enfance ou la religion de sa préadolescence. La religion que sa famille, en réalité sa mère, ont voulu lui imposer. Et déjà, il vole de ses propres ailes vers la liberté et vers la poésie, donc vers ce qui est véritablement divinisé par lui. Vous savez que sa mère était très dévote, c'est ainsi qu'elle est représentée au début du poème « Les poètes de ses temps ». En l'absence du père, il a reçu une éducation catholique. On a même décrit la déambulation de la petite famille Rimbaud dans les rues de Charleville quand la famille allait à l'église le dimanche, mère en tête et les enfants derrière. Il a fait sa première communion. On a une photographie de Rimbaud communiant avec son frère aîné, son frère âgé d'un an de plus que lui, Frédéric. Et puis, déjà à l'époque où il écrit cette lettre à Théodore de Bourville. Il est à ce moment-là en classe de première au collège municipal de Charleville, ce qu'on appelait à l'époque la classe de rhétorique, la classe de rhéto. Déjà, il est détaché de tout cela et de ce détachement non dit, on arrivera à une rupture brutalement exprimée, violente même, dans certains poèmes, les premières communions, les pauvres à l'église, nous en reparlerons peut-être tout à l'heure, et aussi, bien sûr, dans Une saison en enfer, avec une phrase très vive à cet égard, qui figure dans la section Nuit de l'enfer, où il reproche à ses parents le baptême qu'ils lui ont imposé.
J'avais entrevu la conversion au bien et au bonheur, le salut. Puis-je décrire la vision ? L'air de l'enfer ne souffre pas les hymnes. C'était des millions de créatures charmantes, un suave concert spirituel, la force et la paix, les nobles ambitions. Que sais-je ? Les nobles ambitions. Et c'est encore la vie. Si la damnation est éternelle, un homme qui veut se mutiler est bien damné, n'est-ce pas ? Je me crois en enfer, donc j'y suis. C'est l'exécution du catéchisme. Je suis esclave de mon baptême. Parents, vous avez fait mon malheur et vous avez fait le vôtre. Pauvre innocent. L'enfer ne peut attaquer les païens. C'est la vie encore. Plus tard, les délices de la damnation seront plus profondes. Un crime, vite, que je tombe au néant de par la loi humaine. Tais-toi, mais tais-toi. C'est la honte, le reproche ici. Satan dit que le feu est ignoble, que ma colère est affreusement sotte. Assez ! Des erreurs qu'on me souffle, magie, parfum faux, musique puérile. Et dire que je tiens la vérité, que je vois la justice. J'ai un jugement saint et arrêté, je suis prêt pour la perfection.
Pierre Brunel, on vient juste d'entendre, lu par notre comédien Jean-Louis Jacopin, Nuit de l'enfer, le poème dont vous parliez, donc Nuit de l'enfer qui est dans le recueil Une saison en enfer. Et vous évoquiez ce rejet par Rimbaud de sa formation catholique. Dans le poème, il dit clairement « Je suis esclave de mon baptême. Parents, vous avez fait mon malheur et vous avez fait le vôtre. » Mais est-ce que ce rejet de la religion chez Rimbaud est aussi clair que ça ?
Eh bien, vous touchez le point essentiel. C'est-à-dire qu'il rejette, ou il tente de rejeter la religion catholique, la religion de son enfance, et en même temps, il se rend compte qu'il ne peut pas la rejeter, qu'il ne peut pas la rejeter complètement, qu'il en est, je reprends le mot, l'esclave. Il est l'esclave de son baptême. Et dans Une saison en enfer, il y a une sorte de drame qui est celui-ci. Il sent remonter en lui, c'est le titre de la première section, le sang païen, donc un sang non christianisé, le sang de ses ancêtres gaulois, puisqu'il y fait allusion, comme dans nos manuels d'histoire de France, au début du texte. Mais il a été christianisé, il a été baptisé, et s'il voulait revenir à ce paganisme premier, à ce paganisme historique en quelque sorte, il n'y parviendrait pas. Le drame qui est vécu, c'est celui-là. C'est celui d'une religion qu'il voudrait effacer et qui est ineffaçable. Le titre même a quelque chose de révélateur. Une saison en enfer. L'enfer est éternel, il le dit lui-même. Les damnés, dans la vision chrétienne de l'enfer le sont à jamais. Or, le texte est intitulé « Une saison d'enfer ». Je prends soin au passage de souligner que c'est le seul livre publié par Rimbaud lui-même. J'ai parlé des trois poèmes isolés et « Une saison d'enfer », qui est en prose, a été publié par lui à Bruxelles en octobre 1873. Mais ce titre a quelque chose de contradictoire et en même temps nous place au cœur de ce drame qu'il a réellement vécu. Il ne dit pas « les enfers » comme les Latins et les Grecs. Il dit « l'enfer », c'est donc bel et bien l'enfer chrétien. Or, cet enfer chrétien est éternel et il présente ce qui lui est arrivé, ce qu'il raconte, ce à quoi il met fin, d'ailleurs, dans le dernier texte, à Dieu, comme une saison. Hein. Un enfer chrétien qui, paradoxalement, n'est pas éternel.
Comment faut-il le voir ? Déjà, de substituer une saison à l'enfer, est-ce une provocation à l'égard de la religion, à l'égard du catholicisme ? Comment on doit interpréter chez Rimbaud cette volonté à la fois en fait de parodier ce qui relève de la religion, mais en même temps de tout le temps y faire appel ?
Alors je crois qu'il y a deux lignes d'interprétation qui ne sont d'ailleurs pas en contradiction absolue l'une avec l'autre. La première interprétation, c'est d'en faire une interprétation métaphorique. Cette saison en enfer, c'est un épisode de sa vie, difficile, douloureux, la suite de la rupture avec Verlaine.
D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de dire que la saison n'est pas l'éternité. Donc ça veut dire qu'après l'enfer,
absolument,
il y a le paradis. Est-ce qu'on peut lire ça aussi ?
On peut dire ça aussi. Et puis alors, l'autre sens, c'est qu'il a beau vouloir échapper à l'enfer, il n'est pas sûr d'y parvenir, hein. Il y a en tout cas une lutte constante tout au long de ce texte qu'il nous présente. Peut-il, malgré sa volonté d'écrivain en quelque sorte, réduire l'enfer, réduire son enfer à une saison ?
Une saison en enfer était vue par sa sœur Isabelle Rimbaud comme un livre d'édification religieuse.
Vous savez qu'Isabelle Rimbaud, la dernière sœur de Rimbaud, sa dernière sœur survivante, a à peu près constamment présenté son frère comme soit un catholique qui ne s'assumait pas complètement, soit comme un catholique qui s'assumait complètement. Il y a les deux choses. J'ai avec moi ici ce recueil qui a été publié tout récemment par mon collègue et ami Éric Marty, Rimbaud mourant, c'est l'ensemble des textes d'Isabelle Rimbaud sur son frère, que ce soit des lettres, que ce soit un essai qu'elle a intitulé, le titre est significatif, Rimbaud catholique. Seulement, le témoignage d'Isabelle Rimbaud au sujet de son frère est l'objet de discussions qui sont loin d'être terminées. Et ce témoignage même n'est pas sans quelques contradictions. Alors, je vais tout de suite en donner un exemple parce qu'il est très, très important. Et il est lié à deux directions extrêmement différentes. Nous avons, outre cet essai d'Isabelle Rimbaud sur Rimbaud catholique, outre telle ou telle déclaration qu'elle a pu faire, ou telle confidence, nous avons une lettre d'octobre 1891, Arthur va mourir le mois suivant, raconte la visite de l'aumônier dans la chambre du malade, dans la chambre du presque mourant, à l'hôpital de la Conception à Marseille. Et elle présente son frère, là, comme chrétien. Hein.
Mais avant de parler de la mort d'Arthur Rimbaud, mais disons de ce qui peut rester de la foi à la fin de sa vie, si on reste sur une saison en enfer, et précisément sur ce poème qu'on a entendu, « Nuit de l'enfer », on parle de ce poème, c'est vous qui le dites, comme d'une prose contre-évangélique. Il y aurait une volonté chez Rimbaud de réécrire la Bible. Et c'est intéressant de voir comment Rimbaud réactive un principe d'écriture qui serait une sorte de parodie de la Bible et en même temps une sorte de soubassement nécessaire à son œuvre.
Oui, alors il faut être tout de même prudent. Le titre « Prose contre-évangélique » n'est pas de Rimbaud lui-même.
C'est vous qui...
C'est moi, je crois qu'il l'a employé le premier. Dans les éditions précédentes, on parlait plutôt de prose évangélique. Et en fait, ce sont des textes sans titre. Hein. C'était un projet de Rimbaud, projet dont le manuscrit figure au verso ou au recto des brouillons d'une saison en enfer et qu'on relie à cause de cela à une saison en enfer. Que ce soit un avant-texte, comme on dit à l'université, d'une saison en enfer, je crois que c'est une évidence. Mais Rimbaud n'est pas allé aussi loin, si vous voulez, dans la présentation de son texte. C'est une réécriture de trois épisodes de l'évangile de Saint Jean, une écriture qui est parodique à certains égards, où c'est vrai, il prend le contre-pied du texte biblique, et ça va dans le sens que vous indiquiez tout à l'heure. Mais je vous dirais, la contradiction, elle est là quand même. Il écrit peut-être un contre-évangile, mais il travaille à partir de l'évangile. De la même manière, et bien avant, dans le poème qui s'intitule « Les poètes de ces temps », il y a la Bible à la tranche vers chou. Hein. Cette Bible, elle est présente dans la vie de Rimbaud, elle est présente dans son environnement, comme va être présent. Et c'est là que je voulais en venir tout à l'heure quand je parlais de la contradiction à l'intérieur du témoignage même d'Isabelle Rimbaud, comme est présent dans les dernières années le Coran. Et je dirais même avant les dernières années. Bon, nous avons la trace dans la correspondance de Rimbaud des années africaines et abyssines de ceci, une commande faite à la librairie Hachette d'un Coran qu'il veut bilingue, en arabe et en français, et une lettre à sa famille, un peu plus tard, où il dit qu'il a bien reçu le Coran en question. Il utilise même le pluriel, les Corans, puisqu'il y a le Coran en arabe et le Coran en français.
Vous parliez de contradictions dans l'œuvre de Rimbaud. Comment peut-on lire l'œuvre de Rimbaud ? On lui fait le reproche parfois d'être trop lisible ou trop illisible à l'inverse. Il y aurait une sorte de mythe herméneutique de l'œuvre de Rimbaud. Elle devrait tout le temps être interprétée. Est-ce que le problème de la croyance ne révèle pas ce travers dans l'œuvre de Rimbaud ? Est-ce que l'œuvre de Rimbaud est si illisible ? Est-ce qu'il faut le voir comme une parole oraculaire qu'on devrait interpréter, comme s'il y avait une dimension théologique à décrypter dans son œuvre ?
Alors je crois que tout ce que nous venons de dire depuis le début de l'émission va dans ce sens. Il y a un apparent credo, hein ? Il y a un credo proclamé, que ce soit en latin, que ce soit en français, et on se rend compte, à l'intérieur de ce credo, de contradictions extrêmes. La difficulté de la lecture de Rimbaud, elle est là, elle n'est pas seulement là, bien sûr, il y a aussi une difficulté verbale, sur laquelle peut-être nous allons revenir dans un instant, mais dès le point de départ, il y a dans l'utilisation du mot croire, dans l'utilisation du mot croyance ou dans les différents mots qui vont dans le même sens, des possibilités qui peuvent être des possibilités absolument contradictoires. Et la difficulté de son œuvre, elle ne tient pas seulement à cela. Nous savons que c'est aussi une difficulté qui tient à l'expression même et qui est très très inégale. Il y a des poèmes de Rimbaud qui sont accessibles à des enfants même. J'ai appris moi à l'école primaire le Buffet, ma Bohème, les Effarés. Et il y a des textes de Rimbaud au contraire qui sont énigmatiques, souvent parce qu'il les a voulu tels. Hein ? Je prendrai un exemple, « Mes petites amoureuses », l'un des trois poèmes qu'il a adressé à Paul Demny le 15 mai 1871 dans la longue lettre dite « Lettre du voyant ». C'est un poème qui est fondé sur une création verbale ou des mots rares. Ça commence par « Un hydrolat lacrymal Évidemment, qui peut comprendre cela du premier coup, en tout cas sans s'armer d'un dictionnaire, sans réfléchir sur l'évolution de la langue. Hein. Donc, la difficulté, elle a des origines multiples. Mais vous avez tout à fait raison, et ça va dans le sens du sujet que nous abordons aujourd'hui, de dire que, au point de départ, et fondamentalement, les contradictions qu'on peut trouver chez Rimbaud dans le domaine de la croyance, au sens le plus large du terme, sont une source majeure de difficultés d'interprétation pour les textes mêmes, et finalement de difficultés d'approche de l'homme Rimbaud lui-même. Et je voudrais, si vous voulez, aller jusqu'au bout tout de même du témoignage Allez-y. D'Isabelle Rimbaud. C'est par elle que nous avons entendu dire, que nous savons que dans les derniers jours qui ont précédé sa mort, il aurait dit « Al-Akérim », c'est-à-dire une invocation à Allah comme absolu, donc quelque chose qui irait dans le sens d'une évolution vers le Coran, hein, vers la religion musulmane, puisqu'il a vécu parmi les musulmans les 10 dernières années de sa vie.
Le poète est vraiment voleur de feu. Il est chargé de l'humanité des animaux même. Il doit faire sentir, palper, écouter ses inventions. Si ce qu'il rapporte de là-bas a forme, il donne forme. Si c'est informe, il donne de l'informe. Trouver une langue. Cette langue sera de l'âme pour l'âme, résumant tout. Parfum, son, couleur, de la pensée accrochant la pensée et tirant. Le poète définirait la quantité d'inconnus s'éveillant en son temps dans l'âme universelle. Il donnerait plus que la formule de sa pensée, que la notation de sa marche au progrès. Énormité devenant norme, absorbée par tous, il serait vraiment un multiplicateur de progrès. Cet avenir sera matérialiste, vous le voyez. Toujours plein du nombre et de l'harmonie, ses poèmes seront faits pour rester. Au fond, ce serait encore un peu la poésie grecque. L'art éternel aurait ses fonctions, comme les poètes sont citoyens. La poésie ne rythmera plus l'action, elle sera en avant.
Automne, déjà. Mais pourquoi regretter un éternel soleil ? Si nous sommes engagés à la découverte de la clarté divine, loin des gens qui meurent sur les saisons. L'automne. Notre barque, élevée dans les brumes immobiles, tourne vers le port de la misère, la cité énorme au ciel taché de feu et de boue. Ah, les haillons pourris, le pain trempé de pluie, l'ivresse, les mille amours qui m'ont crucifié. Elle ne finira donc point, cette goule reine de millions d'âmes et de corps morts, et qui seront jugées. Je me revois la peau rongée par la boue et la peste, des vers pleins les cheveux et les aisselles, et encore de plus gros vers dans le cœur, étendus parmi les inconnus sans âge, sans sentiment. J'aurais pu y mourir, l'affreuse évocation. J'exècre la misère. Et je redoute l'hiver, parce que c'est la saison du confort. Quelquefois, je vois au ciel des plages sans fin, couvertes de blanches nations en joie. Un grand vaisseau d'or au-dessus de moi agite ses pavillons multicolores sous les brises du matin. J'ai créé toutes les fêtes, tous les triomphes, tous les drames. J'ai essayé d'inventer de nouvelles fleurs, de nouveaux astres, de nouvelles chairs, de nouvelles langues. J'ai cru acquérir des pouvoirs surnaturels. Eh bien, je dois enterrer mon imagination et mes souvenirs. Une belle gloire d'artiste et de conteur emportée.
J'ai un peuple fendu, en honneur une femme. me superbe crime, crime sur la base publique.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h31-32, c'est le quatrième et dernier temps de notre semaine consacrée à la croyance et nous parlons aujourd'hui du poète voyant et prophète Arthur Rimbaud en compagnie de Pierre Brunel, auteur de Ce sans cœur de Rimbaud paru aux éditions Verdier et Pierre Brunel surtout qui a établi l'édition des œuvres complètes d'Arthur Rimbaud aux éditions du Livre de Poche.
En effet, il fut à moi toute une matinée, le temps du cabinet, les éleveurs sur la maison. Et tout l'après-midi, oui, ça m'enserrait du côté des gens et des pas.
Pierre Brunel, on a entendu deux choses. D'abord, la lettre du voyant, c'est la lettre à Paul de Meuny du 15 mai 1871. J'en ai lu une partie. Puis on a entendu le poème « Adieu » lu par Roger Blin. C'est le dernier poème d'une saison en enfer. Et ces deux extraits nous permettent de mettre en avant une évolution dans l'œuvre de Rimbaud qui est liée à la croyance, où l'on passe d'un poète voyant à un poète démiurgique, où on entend cette idée de transformer, d'unir en un tout tous les éléments pour transformer le monde. Est-ce que ça, c'est pas une des formes que la croyance prend chez Rimbaud? Quand on lit Rimbaud, on a l'impression d'avoir affaire à une entreprise démiurgique.
Je vous remercie beaucoup d'abord du choix de ces deux textes. La très longue lettre à Paul de Meuny du 15 mai 1871, écrite en pleine période de la Commune, adressée à un poète parnassien, chose curieuse, hein, et une lettre irremplaçable parce qu'elle va aussi loin que possible dans la quête d'une langue absolue, en quelque sorte. Trouver une langue, c'est pas n'importe quelle langue, c'est trouver la langue à la recherche de laquelle il est et qui serait véritablement sa langue, la langue de la poésie qu'il est le seul à pouvoir écrire. Cette lettre est illustrée par trois poèmes. J'ai fait allusion au second tout à l'heure, Mes petites amoureuses. Avant, il y a un poème plutôt à caractère politique, Chant de guerre parisien contre le gouvernement de Thiers et les bombardements de Paris. Et ça se termine par un poème violemment anticlérical, une caricature d'un prêtre, Frère Milotus, sous le titre Accroupissement. Et vous imaginez de quel type d'accroupissement il peut s'agir. L'autre texte que vous avez choisi,
Adieu,
d'une saison en enfer, est un texte lui aussi majeur pour d'autres raisons. J'aimerais dire plusieurs choses à son sujet.
Allez-y.
Tout simplement d'abord le titre, Adieu. C'est un mot, nous ne pouvons pas faire autrement, qui contient Dieu. Deuxièmement, la résonance biographique, l'automne déjà. Une saison d'enfer a été terminée au mois de septembre 1873, publiée au mois d'octobre 1873. La fin de la saison en enfer correspond à cet automne-là. Et puis, cet adieu est un adieu à l'enfer, hein ? Ce dernier texte ouvre sur quelque chose qui est beaucoup plus lumineux, sur une aurore, le mot est présent dans le texte.
Ça ouvre sur les illuminations.
Voilà, et ça ouvre sur les illuminations. Alors, je vais être quand même un peu prudent à ce sujet. Il y a eu des commentaires, et peut-être même que je me suis risqué à cet égard à ce sujet, à propos de l'entrée dans les splendides villes, qui se trouve également dans les dernières lignes d'une saison en enfer. On a fait le rapprochement avec l'entrée du Christ à Jérusalem, et ça pourrait être encore une forme de contre-évangile ou de reprise parodique ou plus ou moins parodique de l'évangile. Mais en réalité, il s'agit surtout d'autre chose, et c'est là que l'orientation que vous nous donnez me paraît la bonne. Une recréation du monde, une recréation de la vie, et c'est ce qui va donner, à mon avis, tout son sens au titre que la postérité, sous couvert de Verlaine, a donné aux Illuminations. Le manuscrit de Verlaine, inachevé, était resté sans titre, et le manuscrit de Rimbaud, pardon, était resté sans titre, et nous n'avons pas la certitude absolue qu'il aurait donné comme titre Illumination à cet ensemble, mais c'est assurément ce titre qui a le plus de sens quand on lit les textes qui sont rassemblés sous lui. La recréation du monde, c'est un nouveau Fiat Lux, comme j'ai essayé à maintes reprises de l'expliquer. Rimbaud a dit adieu à Dieu, si je puis dire, à la fin d'une saison en enfer. Il est le nouveau Dieu, il est le nouveau Démiurge, en tout cas, il est le nouveau créateur du monde. Et cette création, à ce moment-là de son existence, passe par la poésie, passe par l'invention d'un nouveau langage, passe par les mots.
Mais plutôt que, on voit que chez Rimbaud, plutôt que de s'opposer à la religion, il faut devenir Dieu, il faut se substituer à Dieu par la poésie. Mais faut-il croire Rimbaud? Faut-il croire cette entreprise de nouvelle genèse, comme vous en parlez dans Rimbaud ou l'éclatant des astres?
Alors je vais vous donner ma réponse immédiate à cette question très importante et très intéressante. C'est-à-dire que pour moi, il faut saisir Rimbaud dans l'instant. Il y a un moment des illuminations et un moment où il a pu effectivement croire à cela. Hein. Et puis, ça ne veut pas du tout dire que par la suite, il va en être de même. Ça ne veut pas du tout dire non plus qu'avant, il en était ainsi. Hein. Rimbaud est à beaucoup d'égards l'homme de l'instant, ce qui explique les changements d'une brutalité extrême qui peuvent se produire dans son existence. Et dans sa carrière d'écrivain, la rupture la plus éclatante étant le moment où il renonce à 19 ans à la poésie, c'est-à-dire que s'il a cru, à un certain moment, fut-il bref, et correspondant aux illuminations ou à certaines des illuminations, s'il a cru pouvoir être le nouveau Démiurge, s'il a pu croire être le nouveau Dieu, l'entrée dans le silence et l'abandon de cela, et une rupture tout aussi violente avec cette forme de credo que pouvait être sa rupture avec le christianisme de son enfance.
Donc la croyance rimbaldienne, enfin, s'il y a un Dieu qui est Rimbaud, ne doit pas du tout s'installer dans l'éternité, il est dans l'instant. Et d'ailleurs, la manière qu'il a d'écrire, son œuvre est faite de fragments, de trous, de points de suspension.
Tout à fait. L'étonnement pour nous vient du fait que ce qu'il y a de plus long, ce sont les années d'Aden et de Harar, qui ont quand même une certaine continuité, hein, ne serait-ce que la continuité du silence poétique.
Quand le prêtre est sorti, il m'a dit en me regardant d'un air troublé, d'un air étrange, « Votre frère a la foi, mon enfant. Que nous disiez-vous donc? Il a la foi, et je n'ai même jamais vu de foi de cette qualité. Moi, je baisais la terre en pleurant et en riant. » Oh Dieu, quelle allégresse, même dans la mort, même par la mort. Que peut me faire la mort, la vie et tout l'univers et tout le bonheur du monde, maintenant que son âme est sauvée? Seigneur, adoucissez son agonie, aidez-le à porter sa croix. Ayez encore pitié de lui, ayez encore pitié, vous qui êtes si bon. Oh oui, si bon. Merci, mon Dieu, merci. Quand je suis rentré près d'Arthur, il était très ému, mais ne pleurait pas. Il était sereinement triste, comme je ne l'ai jamais vu. Il me regardait dans les yeux comme il ne m'a jamais regardé. Il a voulu que je m'approche tout près. Il m'a dit « Tu es du même sang que moi. Crois-tu, dis ? Crois-tu ? » J'ai répondu « Je crois. D'autres plus savants que moi ont cru, croient. Et puis, je suis sûr à présent, j'ai la preuve, cela est. Et c'est vrai, j'ai la preuve aujourd'hui. » Il m'a dit encore avec amertume, « Oui, ils disent qu'ils croient, ils font semblant d'être convertis, mais c'est pour qu'on lise ce qu'ils écrivent, c'est une spéculation. »
Pendant le courant de la semaine, les aumôniers étaient venus le voir deux fois. Il les avait bien reçus, mais avec tant de lassitude et de découragement qu'il n'avait pas osé lui parler de la mort.
Il reconnaît tout le monde. Moi, il m'appelle parfois Jamy, son servant du Harar. Du reste, il mêle tout et avec art. Nous sommes au Harar, nous partons toujours pour Aden. Et il faut chercher des chameaux, organiser la caravane. Il marche très facilement avec sa nouvelle jambe articulée. Nous faisons quelques tours de promenade sur de beaux mulets richement harnachés. Puis il faut travailler, tenir les écritures, écrire des lettres. Vite, vite, on nous attend. Fermons les valises et partons. Il y a une exclamation qui revenait sans cesse sur ses lèvres. Allah, Allah, crime.
Pierre Brunel, on vient d'entendre deux choses. D'abord, lue par Jean-Louis Jacopin, une lettre d'Isabelle Rimbaud, c'est la lettre du mercredi 28 octobre 1891 que vous avez évoquée tout à l'heure. Puis on a entendu un extrait d'Arthur Rimbaud, une biographie. C'est un film de Richard Dindot qui date de 1991 où on entend la comédienne Christiane Coandy interpréter sa sœur qui la donne un témoignage inverse, à savoir qu'il se serait plutôt tourné vers l'islam. Et après l'épisode des illuminations, qui ont ceci de propre qu'elles ne sont qu'instantanées, il reste malgré tout des restes de foi chez Arthur Rimbaud. Et il y a un problème, il y a deux manières d'interpréter ces restes de foi chez Rimbaud, c'est soit un retour à la foi chrétienne, soit plutôt une conversion à l'islam.
Voilà, je vous remercie pour ces questions qui vont rester des questions ouvertes, inévitablement. Pour une première raison, c'est que les témoignages d'Isabelle Rimbaud, quelle que soit leur importance, et cette importance est grande, hein, ne sont pas des témoignages absolus. Pour prendre un seul exemple, cette lettre datée de Marseille, mercredi 28 octobre 1891, est une lettre dont nous n'avons pas le manuscrit autographe. Nous en connaissons trois versions, indirectes en quelque sorte, et il y a pu y avoir des doutes au sujet de l'authenticité de cette lettre. Hein. C'est une question qui est abordée par les Rimbaldiens d'une manière générale, en particulier par Éric Marty dans le petit volume Rimbaud mourant que je signalais tout à l'heure. Le témoignage concernant l'évolution vers l'islam, venu de la même Isabelle Rimbaud, est un témoignage purement oral, cette fois-ci. Voilà, donc il ne s'agit pas non plus de prendre cela pour un absolu. Nous le savons depuis le début, et depuis le début de cette émission, Rimbaud est l'homme des contradictions. Hein. Il saute d'un extrême à l'autre. Pour ce qui est du Coran, par exemple, je fais observer que dans Une saison en enfer, il y a une allusion au Coran. Dans l'avant-dernier texte, L'impossible, il parle de la sagesse bâtarde du Coran, c'est-à-dire que ça ne va pas sans critique à l'égard du Coran. Et en même temps, quand il est au Harar, il commande le Coran, et peut-être est-il allé jusque cet Allah Kérim auquel a fait allusion Isabelle et d'autres après elle. Donc, il est très très difficile ici d'avoir une certitude absolue en quoi que ce soit. Pour ce qui est des témoignages recueillis par Isabelle, le tout dernier, c'est la lettre ou le début de lettre qu'il lui a dictée la veille de sa mort, le 9 novembre 1891, lettre adressée à Monsieur le Directeur, il s'agit probablement du directeur des messageries maritimes de Marseille, et c'est une lettre où il demande à aller à bord le lendemain en direction du canal de Suez vers un lieu qu'il appelle Affinard. Donc un dernier voyage, c'est d'ailleurs il y a d'ailleurs un texte d'Isabelle Rimbaud qui est consacré à ce dernier voyage de Rimbaud. Le dernier voyage pour nous c'est la mort, et ce dernier voyage il est envisagé par Rimbaud comme un voyage ressemblant à ceux qu'il a pu faire déjà vers l'Orient à bord d'un bateau des messageries maritimes. Donc tout cela est extrêmement complexe. Je dirais que, non pas indépendamment, car c'est lié, mais en plus du problème strictement religieux, il y a un problème constant chez Rimbaud, je dirais du début à la fin de son existence, concernant, et ça nous concerne tous, la mort et la vie. Hein. Cette vie qui devrait être la vraie vie, on trouve l'expression sous sa plume, cette vraie vie qu'il a cru trouver en Orient, mais les lettres qu'il a écrites, bien souvent, nous montrent qu'il est déçu à cet égard. L'hôpital de Marseille, l'amputation, le dernier voyage à Charleville, et tout cela lui donne le sentiment d'une pré-mort beaucoup plus que d'une vie qui continue, ou si cette vie qui continue, elle est horriblement malheureuse. Hein. Ce n'est pas seulement une question de croyance, pour le coup, c'est une question d'existence.
À vendre, ce que les Juifs n'ont pas vendu, ce que noblesse ni crime n'ont goûté, ce qu'ignore l'amour maudit et la probité infernale des masses, ce que le temps ni la science n'ont pas à reconnaître, les voix reconstituées, l'éveil fraternel de toutes les énergies chorales et orchestrales et leurs applications instantanées, l'occasion unique de dégager nos sens. À vendre les corps sans prix, hors de toute race, de tout monde, de tout sexe, de toute descendance. Les richesses jaillissant à chaque démarche, soldes de diamants sans contrôle. À vendre l'anarchie pour les masses, la satisfaction irrépressible pour les amateurs supérieurs, la mort atroce pour les fidèles et les amants. À vendre les habitations et l'immigration, sport, féerie et confort parfait, et le bruit, le mouvement et l'avenir qu'ils font. À vendre les applications de calcul et les sauts d'harmonie inouïs, les trouvailles et les termes non soupçonnés, possession immédiate, élan insensé et infini, aux splendeurs invisibles, aux délices insensibles. Et ses secrets affolants pour chaque vice, et sa gaieté effrayante pour la foule. À vendre les corps, les voix, l'immense opulence inquestionnable, ce qu'on ne vendra jamais. Les vendeurs ne sont pas à bout de solde. Les voyageurs n'ont pas à rendre leur commission de sitôt.
Merci beaucoup Pierre Brunel.
Merci beaucoup.
Comme Rimbaud, soldons tout. On finit cette semaine croyance en beauté avec ce poème qui est issu des Illuminations. Merci en tout cas de nous avoir parlé d'Arthur Rimbaud et de la croyance. Je rappelle que l'on peut lire de vous Rimbaud ou l'éclatant désastre, disponible aux éditions Champvallon. Un ouvrage plus récent, Éclat de la violence, pour une lecture comparatiste des Illuminations d'Arthur Rimbaud aux éditions Corti. Et encore plus récent, Ce sans cœur de Rimbaud, paru aux éditions Verdier. Et je signale donc surtout les œuvres complètes d'Arthur Rimbaud que vous avez établies, Pierre Brunel, aux éditions du Livre de Poche. Et enfin, dernière chose, je signale la parution de Rimbaud, Celui-là qui créera Dieu, de Stéphane Barsac, et c'est aux éditions du Point.